Koh-Lanta, les quatre terres, on est déjà à l'épisode 7, ça passe très vite. Et c'est l'infortuné Sébastien qui a été éliminé. Donc salut, moi c'est Damien, et bienvenue pour cet épisode 7 d'Autour du Feu, avec autour de moi une bande que vous commencez un petit peu à connaître et une ancienne candidate. Donc on va commencer par l'animateur du Kikadi, quelqu'un de drôle, quelqu'un de qui a le flair justement pour trouver les bons mots, c'est Freeze. Salut Freeze.
Bonsoir, tu aurais pu continuer un peu, c'était sympa, mais oui, bonjour tout le monde.
Le talentueux, le taquin, l'espiègle.
Ouais, tout ça est très juste.
Voilà.
Le modeste aussi.
Du coup, Freeze, est-ce que tu as aimé cet épisode cette fois-ci?
Eh bien oui.
Ah.
Voilà. C'est tout.
Non, c'est vrai que c'était un épisode qui était quand même assez sympa à suivre. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, c'était un petit creux. Là, on s'est diverti de nouveau.
Ouais, donc, tout à fait.
Avec nous aussi, donc, il fait partie de la team Podcast Sport, il est belge, il fait partie aussi de nos intervenants, et puis c'est lui qui a fait notamment notre générique et le fameux jingle du Kikadi que Freeze aime tant, c'est Wilson. Salut Wilson.
Et salut Damien, salut tout le monde qui est dans le live. Voilà.
Du coup, toi aussi, est-ce que tu as aimé cet épisode?
Eh ben, j'ai commencé l'épisode en me disant ça va parler que de sport, ça va parler que de mérite parce qu'on a eu beaucoup beaucoup ça, bon on en parlera plus tard, mais la fin de l'épisode, le dernier tiers, quel plaisir.
Voilà, ben, je pense qu'on parlera après, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis avec nous une ancienne candidate, elle était déjà intervenue avec nous lors de l'île des héros et on est très content de la retrouver parce qu'elle est très drôle sur Twitter, elle a beaucoup de réparties, c'est Marine. Salut Marine.
Hello tout le monde.
Comment ça va toi du coup depuis la dernière fois?
Ah mais moi ça va toujours très bien, déjà je suis trop contente d'être là. Ça fait trop plaisir de voir. Et non, tout va bien.
Est-ce que tu as aimé cet épisode?
Ah bah ça change de la semaine dernière, donc forcément ça pouvait que être mieux. Et là ouais non, franchement c'était grave cool et pour le coup je suis assez d'accord, la dernière partie de l'épisode était vachement bien. Et non, c'était cool.
Alors du coup on va commencer. Alors première chose qu'on a remarqué, c'est que l'élimination d'Aubin est expédiée assez rapidement, quoi. C'est-à-dire en gros, les rouges ne s'attardent pas vraiment sur son élimination. On part directement sur l'épreuve de confort. Et l'épreuve de confort, c'était quand même une épreuve qui était très drôle, notamment grâce à Alexandra. Alexandra qui a hurlé pendant tout du long, qui s'est donné vraiment à fond, et Laurent qui ne comprenait rien. Donc il s'est expliqué ensuite sur les réseaux sociaux en disant que ça faisait 4 jours qu'il avait des bouchons d'oreilles et que forcément il ne comprenait pas pourquoi on lui avait demandé d'aller chercher le sac le plus lointain, et c'est ça qui fait perdre l'équipe des jaunes. Alors tiens Freeze, toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette épreuve, d'Alexandra, de tout ça, de tout ce dont je viens de parler?
Juste avant de parler de l'épreuve, je vais citer Valentin sur le chat qui dit assez justement qu'on a juste vu avant l'épreuve que Laurent expliquait justement l'élimination d'Aubin auprès d'Alix et qu'il faisait de manière plutôt intelligente. Donc c'est vrai que ça a été fait très rapidement et qu'on ne s'est pas trop attardé, mais c'était quand même un petit passage intéressant parce qu'on voit que Laurent continue de bien se placer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'était une observation assez juste, donc je le précise. Après, concernant l'épreuve, c'était plutôt plus rigolo que passionnant. Hein. Après, c'est pas mes épreuves préférées parce que c'est vraiment... la recherche de la meilleure séquence un peu drôle, du mec qui va se prendre le poteau, du gars qui va se perdre, etc. Bon, c'est toujours un petit peu la même chose. On s'en lasse quand même assez vite. Après, au niveau de la stratégie dans l'épreuve en elle-même, c'est un peu surprenant d'avoir justement choisi Alexandra, même si dans les épreuves, elle est toujours très performante. Mais là, si on parle vraiment au niveau de la voix, c'est Becca qui en parle justement après l'épreuve et qui dit c'est un peu étonnant d'avoir pris la seule meuf qui était à fond au début du jeu. Et je suis assez d'accord, je trouve que c'est un peu compliqué. Leurs indications avec les horaires n'étaient pas forcément une mauvaise méthode, je trouvais ça même plutôt intelligent en termes de précision. Après, en termes de portage de voix et de volume, c'est peut-être un choix qui les fait perdre, plus que Laurent qui se perd. Je pense que les deux sont un peu liés quand même. Donc un peu surpris par la méthode, mais l'épreuve en soi était plutôt sympa, effectivement.
Marine, qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh ben, j'ai pensé un peu la même chose. Pour moi, c'est des épreuves que j'aime pas trop voir parce que voilà, c'est plus drôle que passionnant, exactement comme l'a dit juste avant. Après, ça permet quand même de voir certaines dynamiques de groupe dans le sens où bah là, personne n'a osé dire à Alexandra, bah non, j'y vais pas ou des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, on se dit, bah, comment ça se fait qu'ils n'ont pas osé, pourquoi personne n'a pris le dessus. Et c'est là qu'on voit que leur dynamique dans cette équipe jaune, elle est un peu perdue, on dirait des fois. Bah, genre, si Alix, elle n'est pas là. Voilà, c'est un peu la merde. Après, c'est cool aussi, ces épreuves, parce qu'on voit aussi, bah, par exemple, là, leur façon de réfléchir. On voit encore qu'Alexandra, elle est hyper intelligente. Le coup des horaires, moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution. Après, ça n'allait pas avec sa voix. Et ça a été la seule erreur qu'ils aient fait vraiment sur cette épreuve.
Wilson.
Alors, moi, pour l'épreuve, je l'ai trouvé... intéressante sur une chose, on le disait avec Alexandra, en fait ils ont compris l'épreuve comme une épreuve où il fallait quelqu'un qui sache où aller, et Alexandra on l'a vu depuis le début, elle lead bien sur les épreuves, notamment sur les épreuves un peu compliquées, puzzle etc, et ils ont trop mis sur le puzzle qui au final n'était pas si complexe plutôt que sur la portée de voix, et ça a été leur erreur stratégique. C'était pas si mauvais, mais si ça a été un puzzle complexe, peut-être plus à la fin, ou en tout cas avec plus de réflexion, ils auraient pu prendre l'avantage. On l'a vu d'ailleurs bien rattraper un Laurent qui était vraiment pas dedans sur cette épreuve là. Peut-être un peu à cause d'Alexandra, mais je veux dire, vu le temps qu'a perdu Laurent et la différence un peu entre les deux à la fin, je suis pas certain que c'est que la voix d'Alexandra qui a pêché sur cette épreuve-ci.
Ouais, mais après, on peut se dire, si ça n'avait pas été la voix d'Alexandra, peut-être que Laurent n'aurait pas été perdu. Enfin, tu vois, c'est sans fin.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Non, mais par contre, il faut arrêter le délire, parce que quand elle les a appelés pour bouffer, bizarrement, ils l'ont bien entendu. Donc, en fait, Laurent, je pense qu'il avait peut-être son problème d'oreille et tout ce qu'il faut, mais... Enfin, tout le monde l'a écouté. Loïc, en 2 secondes, il est allé chercher son sac, il est revenu. Je pense que c'est le seul qui a eu un vrai problème. Lola, je pense que ça l'a rangé de dire qu'elle a un peu moins entendu, mais elle était juste un peu perdue. Non, franchement, je pense pas que ce soit la voix.
Je suis d'accord avec Marine.
Honnêtement.
Moi aussi, justement, c'est qu'on aurait pu se dire peut-être une voix plus grave aurait porté davantage. Mais je pense que, bah, surtout avec les explications de Laurent bah, sur Internet, c'est qu'on sait vraiment qu'il avait des acouphènes, des bouchons d'oreille pendant 3-4 jours, que les médecins lui mettaient des gouttes justement à cet effet.
Et ça change un peu tout. Il était sourd.
Ah ouais, d'accord. Alors.
Ouais, mais ouais, il avait des traitements dans les oreilles. Et après,
est-ce qu'il le savait ça? Pourquoi ils l'ont envoyé lui alors qu'il n'entendait rien, le mec?
Mais justement, c'est ça qu'il dit, c'est qu'il n'a pas compris.
Elle n'a pas entendu les règles de l'épreuve.
Ouais, il n'a pas compris pourquoi Alexandra l'avait amené au fond.
Ouais.
C'est ce que dit Valentin sur le chat. Visiblement, Alex a envoyé Laurent au fond, alors qu'à la base, c'était Loïc qui devait y aller.
Ok. Bah, bien joué.
Donc, victoire pour les Rouges. Et donc la récompense de ce jeu de confort, c'est un petit gueuleton sur un bateau au loin. Et on voit par exemple Alix qui commence à rager. Elle fait beaucoup ça, je trouve ça de. Enfin, est-ce que c'est son aspect compétiteur, j'imagine, mais elle a du mal aussi un peu avec l'adversité. On l'avait dit la semaine dernière par rapport au petit, c'était même pas du chambrage quoi, c'est de la part d'Adja. Et là, pareil, c'est que de voir le bateau pas loin de sa plage, ça l'a beaucoup énervé. Et ça, voilà, je me dis, pour une leader, elle est un peu déjà avec le bout d'aubin, donc elle a perdu de son influence, premièrement. Et deuxièmement, je pense que cet énervement pourrait lui être préjudiciable par la suite. Voilà, Wilson, toi, qui est sur le cas Alix, sur la suite du jeu de confort, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, par rapport à Alix, moi... Je pense qu'on la voit s'énerver sur le coup. On sait que bon, ils ont faim, il a pas fait bon tout le début d'aventure au niveau du temps, que c'était assez compliqué à ce niveau-là. Ils viennent de perdre. Et du coup, le souci ici, c'est pas. Je pense pas qu'Alix était énervé sur le long terme. D'ailleurs, on l'a pas vu forcément réagir. Ça aurait pu avant l'épreuve suivante. On aurait pu avoir des relents de ça. Elle s'est énervée sur le coup. Je pense que c'était plus de la frustration qu'absolument quelque chose de qui est une ambiance. Morose autour de ça. Je pense qu'elle s'est juste pris le chou sur le coup, elle a lâché un coup de gueule, on l'a vu au montage, mais c'est pas aller plus loin que ça. J'ai pas l'impression en tout cas qu'il y aura des répercussions par rapport à ça.
Freeze ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'elle a juste eu une petite montée de seum qu'on peut comprendre, hein, quand t'as quand même le bateau qui est à 200 mètres de toi avec les autres complètement bourrés dessus. Je pense qu'une petite réflexion, c'est pas la fin du monde. Après, de manière plus générale, elle a un petit côté un peu mauvaise perdante, mais bon, c'est pas non plus complètement incompréhensible. On a vu Adja qui était de l'autre côté de la semaine dernière, donc bon, c'est plutôt le côté compétiteur. Après, moi, ça me la rend pas antipathique pour autant. Je suis pas sûr que ça soit le cas de ses coéquipiers, par contre. Je me demande si elle commence pas un peu à énerver, peut-être à cause de ce caractère-là. On verra, mais j'ai trouvé plus dommageable les reproches qui ont été faits à Alexandra, par exemple, que j'ai moins compris. Le fait de voir les autres gagner leur confort, c'est forcément agaçant. Le fait de rejeter la faute sur Alexandra, c'était un petit peu plus bâtard, hein, j'ai pas d'autres mots, parce que pour le coup, comme on dit, c'est pas uniquement de sa faute, loin de là. Et c'était un peu la cible facile, je trouve ça dommage. Compréhensible là aussi, parce qu'il faut en général une tête de turc, mais un peu dommage.
Marine ?
Clairement, en fait, ouais, c'est ça. Elle est pas. Je pense qu'elle est mauvaise perdante. En fait, je pense qu'on le voit même dans son portrait et tout, même dans la vie de tous les jours, elle a l'air de toujours vouloir tout gagner, etc. Et je pense que là, à chaque défaite, en fait, parce que c'est un peu ce qu'on voit, c'est qu'elle s'énerve sur le coup, exactement. Et puis quand elle se retrouve après le lendemain sur l'épreuve d'immunité ou quoi, bon, bah, on vous a entendu, mais bah, on avait un peu le mort, mais ça va. Et en fait, elle dit rien de plus. Donc je pense que sur le coup, elle est hyper frustrée, hyper énervée. En plus, je pense qu'ils avaient la dalle et qu'ils avaient envie d'en profiter. Et voilà, mais après, ça passe. Alors je pense que nous, téléspectateurs, ça ne nous la rend pas antipathique exactement, mais pour les coéquipiers, ça doit être un peu lourd d'avoir toujours ces réactions. Et je suis assez d'accord, moi par contre, c'est les réactions contre Alexandra, mais j'étais... Ah, ça m'a énervée. Genre, en fait, assumez tous vos conneries, entre guillemets. Vous avez fait les mauvais choix ensemble, que je sache. Laurent, t'aurais pu dire que oui, t'as rien entendu, etc. Il l'a dit à un moment. Mais voilà, je pense que c'était ça le plus dommageable, plus que la réaction d'Alix, pour le coup.
Et surtout que Laurent, en fait, il est allé voir Alexandra.
Oui, mais tout seul.
Mais il a... ouais, tout seul, voilà. Il a pas, il s'en est pas ouvert un petit peu à ses autres coéquipiers justement. Et c'est, je suis dit, Laurent, il est filou, ça se voit.
Complètement.
Ouais, c'était malin hein, d'aller voir Alexandra, de discuter avec elle sans s'exposer, sans exposer ses faiblesses aux autres. C'est encore une fois, c'est bien joué. Hein.
Et ça, c'est vrai que pour Alexandra, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai vraiment pas compris pourquoi ils s'en étaient pris à elle, personnellement. J'ai cru comprendre, selon le message de Laurent, qu'il lui reprochait justement cette tactique d'avoir mis Laurent sur le plus éloigné. Que c'était ça, vraiment plus qui était reproché. Mais ouais, non, ça fait un peu... Je pense qu'il y avait pas mal de frustration et que du coup, c'est tombé sur la pauvre Alexandra qui a fait du mieux qu'elle pouvait. Ouais. Et alors, je voulais revenir aussi sur une autre scène, c'est-à-dire donc celle, comme j'avais dit, du bateau qui se situe pas loin. Bon, ouais. Évidemment, on sait que c'est fait exprès. Denis l'a dit de manière presque candide sur Twitter que effectivement, c'était totalement fait exprès. Et moi, j'avais bien aimé la réaction de Loïc qui parle d'appeler la police fidjienne et qui après est à deux doigts de leur montrer ses fesses. J'avoue que moi, si j'étais dans un même cas. Je pense que pour 6 chambres, pour les chambrer au retour, j'aurais volontiers montré mon cul, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez,
mais
vous, dans du chambrage?
Mais il a eu la meilleure réaction.
Cette question.
Ouais.
Ben écoute, Damien, je ne sais pas si je serais prêt à montrer mon cul à un bateau si jamais je perdais l'épreuve, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien aimé la réaction de Loïc. Après... Faut peut-être qu'il fasse attention à pas être trop tout le temps second degré, même si là c'était très drôle et que c'était franchement ça faisait du bien par rapport aux réactions d'Alix notamment. Donc vraiment super Loïc. Après j'ai un peu l'impression qu'il fait ça tout le temps et c'est peut-être ça qui va lui coûter un peu sur le long terme. J'ai quand même l'impression que c'est un gros déconneur, mais je suis pas sûr que quand les choses vont aller vraiment contre son sens, il sera prêt à faire les bons choix. On verra. Mais en tout cas, oui, pour revenir à cette séquence-là, c'était très marrant.
Tu voulais dire quelque chose, Marine ?
Ah non, mais moi, franchement, il m'a plié. J'étais mort de rire. En fait, je me suis dit... En fait, il a compris qu'il y avait les caméras, donc il ne l'a pas fait. Mais il était vraiment à deux doigts de le faire. Et je pense qu'il a quand même eu... C'est vrai qu'il est très déconneur, mais il a quand même eu la meilleure réaction. Au départ, il s'est posé, il dansait, il s'est dit « Bon, vas-y, c'est bon, on a perdu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Enfin. Et il a raison, parce qu'au final, t'as déjà le moral dans les chaussettes, t'as déjà la dalle, si en plus t'es devant et tu rages, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Donc non, je pense qu'il a bien fait, et puis je pense que ça l'a fait déconner au fond, et voilà. J'aurais bien aimé voir son cul, quand même. Mais bon.
Bon, toi, peut-être pas jusqu'à montrer tes fesses, mais est-ce que toi, t'aurais eu le genre de réaction à faire coucou à chambrer en retour ?
Clairement. Et je pense que j'aurais fait la fête de l'autre côté pour leur dire quoi, tu t'amuses, mais moi aussi. Merci pour ta musique d'ailleurs. Et non, non, franchement, je l'aurais fait. J'aurais pas montré mon cul en effet, parce qu'il y a quand même des millions de téléspectateurs qui regardent la télé. Mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Wilson.
Mais moi par rapport à ce qu'a fait Loïc, Freeze disait que ça peut lui être préjudiciable. Moi, je pense pas. Je pense justement que c'est l'inverse. Un mec comme ça, on a envie de le garder avec nous parce que, enfin, je sais pas, j'ai jamais été sur l'île, mais l'idée que ça me donne, c'est plus facile de perdre avec quelqu'un comme ça. Dans le sens où il va relier. Et en plus, il a l'air d'être assez bien placé. Il est proche de Laurent, il est proche d'Alix. Et ça va donner une ambiance peut-être qui va faire contrepoids avec cette compétitivité d'Alix dont on parlait et Laurent, parce qu'on va peut-être. On va peut-être en reparler, mais Laurent aime bien un peu s'énerver. J'ai l'impression qu'il a un peu le sang chaud. Et un mec comme Loïc, c'est le parfait complément à ce genre de caractère quand on doit vivre 24 heures sur 24 avec des gens qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques semaines. Donc moi, je pense que s'il arrive à la réunification, enfin, on va peut-être en parler, mais c'est quelqu'un qui risque de rester longtemps dans l'aventure.
Je pense qu'il a plus de chances de rester en individuel parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui peut amener ce côté un peu second degré qui est plutôt bienvenu. Là en équipe, c'est un peu risqué, même si bon a priori ils vont plus être très longtemps en équipe, mais je suis d'accord avec toi, moi aussi concrètement c'est quelqu'un que j'aimerais avoir dans mon équipe parce que voilà, il est rigolo, il est détendu, mais je pense que quand on voit les profils des autres candidats qui sont souvent très premier degré, ça peut aussi être quelqu'un qui va irriter beaucoup. Typiquement Alix, Dorian, des gens qui sont très terre à terre, un peu j'allais dire un truc un peu méchant, mais qui va, on va dire, très premier degré dans les épreuves, le côté sportif, etc. De voir quelqu'un qui prend du recul, qui rigole, etc., ça peut passer pour du je m'en foutiste, et je ne suis pas sûr que ça leur plaise autant. Donc je pense que la réunification arrive au bon moment,
oui,
pour
c'est
lui.
Ça.
Effectivement, en individuel, tu te dis, bah, le gars, il s'en fout, autant le garder, on rigole un peu. Quoi. Mais en équipe, ça dépend vraiment des profils.
Oui, bien sûr.
Pour le coup, je pense que son équipe n'est pas vraiment dans ce mood.
Mais comme on a vu à la fin de l'épisode, je pense que voilà, il a passé le plus dur.
Ouais.
Pour repartir sur Laurent, on le voit donc dans l'équipe jaune s'énerver contre Angélique et Lola parce que elles se font une séance de dépilation de sourcils. Et je crois que c'est Wilson, toi, tu le disais, ça qu'il est. Il le dit lui-même d'ailleurs, Laurent, c'est quelqu'un d'impulsif et qu'il essaie justement de rester un peu en retrait parce qu'il sait que ça pourrait exploser. Mais voilà, les femmes, les filles l'agacent. Et je me dis que c'est pas forcément anodin. Est-ce qu'on pourrait voir pour la suite les filles qui se retourneraient contre Laurent, parce que c'est un personnage qui est quand même petit à petit intégré dans le montage depuis 2-3 épisodes, dont on entend davantage les réflexions, dont on entend davantage les réactions. Est-ce que c'est quelqu'un, vous, que vous voyez prendre de la place, et surtout c'est son inimitié, on va dire, envers les femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui va lui porter préjudice, Marine?
Mais moi, alors, si je ne dis pas de bêtises, il était dans l'équipe verte de base, et là, à la réunification, il va retrouver tout le monde. Donc, en fait, je me dis, si là, il commence à s'affirmer, etc., notamment contre Lola et Angélique, qui, on le sait, sont complètement minoritaires par rapport à leur équipe régionale, en vrai, il n'a pas trop de soucis à se faire si jamais ils arrivent à rester ensemble, etc. Donc, je me dis que oui, il y a grand moyen qu'on le voit encore plus, en fait, sur les prochains épisodes. Se rebeller un peu contre voilà, la vie sur le camp et ces choses-là. Après, il faut être honnête, la réflexion de Lola et Angélique, ah ben on était sur la plage, on pouvait pas savoir qu'il fallait surveiller le feu, excuse-moi, mais t'es à Koh-Lanta. Donc c'est pas aux gens de venir te voir en mode faut aller surveiller le feu, c'est à toi de te lever et de savoir ce que... Enfin, ça m'a un peu énervée, donc en fait j'ai compris complètement sa réaction et j'attends de voir du coup la suite quand il retrouvera ses anciens coéquipiers.
Wilson,
par rapport à... Au fait de retrouver ses anciens coéquipiers. Bon, on a vu que, enfin, on va en parler plus tard, mais que chez les rouges, il y a des dynamiques maintenant qui sont assez bien en place, qui respectent beaucoup moins les anciennes couleurs que ce qu'on pourrait penser. Et de ce côté-ci, Laurent avait expliqué après un épisode, après dans les premiers épisodes, qu'il était un peu isolé dans cette tribu verte par rapport à Loïc, Adja, Joaquina et Becca. Donc je ne suis pas certain qu'il va avancer qu'avec les verts ou qu'il puisse avancer qu'avec les verts. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se rapproche d'une Alix à un certain moment, qu'il fait ces mouvements-là. Et je vois Laurent, là, on est en train, de comme l'a dit Damien, de construire un montage autour de lui. Je pense qu'il va se passer quelque chose d'assez gros avec lui. Je ne sais pas si ce sera aux ambassadeurs ou au conseil suivant ou après, mais on est en train de construire un personnage et on va en faire quelque chose. Et je ne le vois pas aller très loin pour les raisons qu'on a dit d'énervement. On sait très bien à quel point le vivre ensemble est important quand on est 24 heures sur 24 ensemble dans des conditions extrêmes. Et donc, je ne vois pas Laurent rester très longtemps et ni être dans une alliance majoritaire, enfin, être un joueur qui va rester dans un bloc fort, quoi.
Non, mais comme on l'a dit, il est quand même vachement filou. Et du coup, là, il sait très bien qu'il, sur un camp réunifié, c'est quand même important d'avoir le plus grand nombre, au départ en tout cas, pour t'en sortir sur les premiers conseils. Et je pense qu'il n'est pas bête. Il voit que Beka, il a une aura quand même incroyable dans son équipe et tout ça. Et donc, on le voit quand il va le retrouver. Je ne sais pas, hein, parce que comme tu dis, il était un peu en retrait. Mais il y a moyen quand même qu'il s'en serve, pas au moins pour le prochain conseil et pour les épreuves, le premier conseil à passer, quoi.
Oui, ça totalement, par contre. Oui.
Freeze.
Oui, bah, je suis assez d'accord sur l'analyse. Je pense qu'effectivement, c'est le moins bien placé des Verts, peut-être même en dessous d'Alexandra, je pense. Après, oui, il a un profil intéressant, il a des réflexions intéressantes. Je pense que stratégiquement, c'est peut-être un des meilleurs encore en place. Mais comme disait Wilson, son profil un peu de faux calme peut vite lui coûter et sa place et des alliances possibles. Je pense qu'effectivement, il n'a pas trop de soucis à se faire sur les premiers tours là qui vont arriver. Après, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il a ni soutien, ni le caractère un peu empathique que pourraient lui accorder les autres, donc je le vois mal aller jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, je pense que d'épisode en épisode, c'est un profil de plus en plus intéressant. Donc j'espère quand même qu'il va réussir à passer pas mal de tours, parce que je pense qu'il va amener beaucoup à la saison. Après, je ne suis pas énormément confiant sur son avenir.
Alors, on va tout de suite passer donc à l'épreuve d'immunité, qui était l'épreuve de sauter dans l'eau pour casser des jarres. Bon, il y a eu pas mal de chutes, voilà, c'est toujours le moment un peu vidéo gag, enfin l'épreuve vidéo gag, on va dire, celle qui fait le bonheur de Freeze dans ses tops de top show.
Mais c'est un régal sur Twitter, ce genre d'émission, excusez-moi, franchement.
Il n'y a rien à faire. Hein,
c'est juste... Donc, Angélique et Lola qui ont fait des jolis plats, notamment. Et cette épreuve a donc été remportée par les jaunes et un Dorian qui était en feu. Vraiment, Dorian qui casse 5 jarres sur les 8.
Ouais, bah. Ça, on l'a bien compris.
L'épreuve a été remportée par Dorian. Voilà. Point.
c'est Félonie qui sera contente, donc qui était notre intervenante la semaine dernière et qui est une immense fan de Dorian. Et d'ailleurs, c'est une épreuve moi, où je me dis enfin, les jarres étaient situées à 3 mètres et il y avait Sébastien de ta saison qui faisait partie de l'équipe des rouges, Marine, et qui disait que parfois, avec la houle, en gros, les jarres peuvent se retrouver en haut ou en bas, et qu'il faut aussi calculer ce timing-là pour essayer de taper sur une jarre. Est-ce que... Enfin, toi, évidemment, je pense que...
Je ne sais pas si vous avez déjà eu des retours, etc., mais cette épreuve, vous savez que dans la vraie vie, elle est hyper longue. Genre, elle peut durer des heures, tellement c'est très dur d'avoir notamment les dernières jarres. Parce que comme on dit, il y a le vent, il y a là où il y a ci, il y a ça, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, on le voit dans leurs allers-retours à la nage, quand ils remontent, mais on a l'impression qu'ils ont le poids du monde sur les épaules tellement ils sont épuisés en fait. Et c'est pour ça que souvent, alors c'est pas sexiste ou quoi, mais c'est vrai que souvent les femmes sur cette épreuve, elles pêchent beaucoup, parce que elles sont beaucoup plus petites en général, un peu moins de force, etc. Et c'est très, très, très épuisant. On dirait pas comme ça, mais ça l'est.
C'est vrai que je comprends, parce que il y a déjà l'aller à la nage, et ensuite il y a tout un truc comme ça, le timing de la vague, il y a aussi le fait d'avoir une détente, une explosivité dans les jambes, de bons abdos. Et c'est vrai qu'un Dorian qui était ancien champion de France de 3000 mètres steeple, on pouvait davantage s'attendre à le voir performer justement sur cette épreuve. Je crois qu'il y a même Fabrice qui a dû en casser une et tout, mais c'est une épreuve qui reste quand même qui requiert une certaine capacité athlétique, une certaine explosivité. Et du coup, c'est comme dit Dorian qui fait gagner les jaunes, je crois. Oui, les jaunes. Donc, Freeze, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, de cette épreuve?
C'est une épreuve qui est un peu comme la première. C'était un peu la soirée des épreuves rigolotes. Voilà, parce que comme tu dis, il y a des chutes, il y a des plats, il y en a qui arrivent, qui sautent et qui tapent dans l'eau plutôt que de taper la jarre à 3 mètres de hauteur. Donc bon, ça c'est toujours sympa. Après, oui, j'ai jamais fait cette épreuve, hein, puisque j'ai jamais fait Koh Lanta, mais je suis d'accord, il y a quand même pas mal de paramètres qui avantagent un petit peu certains profils au détriment que d'autres. Alors, on va me dire qu'il y a d'autres épreuves qui avantagent d'autres profils, mais pour le coup, c'est quand même assez systématiquement les grands mecs un peu baraques qui arrivent à être performants. Et je trouve qu'il y a suffisamment d'épreuves hein, qui vont un peu dans leur sens, par exemple Dorian typiquement. Donc là, on s'est beaucoup attardé sur sa performance. Alors, ce n'est pas pour dévaluer ce qu'il a fait, parce que c'est très impressionnant et physiquement costaud. Mais encore une fois, c'est quand même un petit peu lui servir la soupe. Voilà, c'est Dorian qui a gagné. Du coup, on remet son portrait, on le valorise bien, etc., etc. C'est en train de refaire un petit peu avec lui, comme ils ont fait avec Sam sur la saison précédente, je trouve. Et c'est dommage parce que c'est un candidat que j'aime bien mais qui commence à me sortir par les yeux à cause de ça justement, pas à cause de ses performances mais à cause de ce qu'on en fait, et c'est dommage. Voilà, après la victoire est logique, sa performance est incroyable, mais tout le truc autour me fatigue un petit peu. Je trouve pas ça très fair par rapport à tous les autres candidats, au-delà même de la performance en elle-même.
Wilson.
Moi, alors il y a quelque chose d'important aussi sur l'épreuve. Oui, c'est vrai que ça avantage les grands forts, on l'a vu avec d'autres dans d'autres saisons. Mais il y a un côté psychomotricien, de la psychomotricité qui est très important dans cette épreuve. Sauter au bon moment, taper au bon endroit, parce qu'on a vu quelquefois, ça tapait déjà à côté. Je pense que c'est Loïc que j'ai vu taper complètement à côté.
Non, mais Loïc, il tapait la jarre tout le temps, mais pas assez fort en fait.
Oui,
il l'a touché.
Ça manquait de taper au bon endroit au bon moment avec la bonne force. Parce que, bon, on a vu Fabrice à taper, donc c'est pas, il faut pas non plus énormément. Faut pas taper comme un bourrin. On a vu Alix aussi tenter la technique du lancer de. Qui était très marrant celui-là. Moi, quand j'ai vu lancer, je me suis dit, ok, ça c'est une belle technique, ça. Ça devient du tir à l'arc. Mais sinon, oui, c'est une épreuve qui va favoriser. Mais la plupart des épreuves de Koh-Lanta favorisent la force. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Par contre, ce que disait Freeze sur Dorian, ça c'est très juste. On commence à en faire une espèce de héros, comme on faisait avec Sam. Et ça complexifie un peu l'attachement qu'on a au personnage. Je pense qu'un spectateur lambda va vite s'attacher à lui en se disant « Allez, il doit mériter de gagner. » Et si de nouveau, il va se faire éliminer, on va de nouveau peut-être se retrouver avec un bouc émissaire. Et je le sens venir un peu à 200 km/h.
Tiens, alors j'ai une question pour toi, Wilson, justement, parce qu'il me semble que tu es coach de football.
Oui.
Voilà. Comment on développe, admettons, la détente d'un joueur, c'est-à-dire la détente verticale, la détente plutôt horizontale, admettons, tu sais, pour t'arrives dans un coup franc, t'es lancé, boum. Et tu pour mettre ta tête, comment on travaille justement cette psychomotricité-là?
Ben en fait, c'est avant tout, bon, on va pas aller dans les détails parce que c'est pas utile, mais c'est avant tout des appuis et de la technique. On parle beaucoup de force, mais j'ai connu des joueurs très très forts qui sautaient à 10 cm du sol, alors que j'ai connu des joueurs plus petits qui sautaient très haut juste parce qu'ils avaient... En fait, tu as utilisé toute la force de ton corps, de tes épaules, hanches, genoux, chevilles, donc c'est en fait passer l'énergie par tous ces parties de rotation du corps pour propulser le plus haut possible. Et utiliser tes bras, utiliser etc. Et c'est comme ça que tu vas développer au fur et à mesure, en renforçant évidemment la force de tes muscles. Mais si ton corps ne bouge pas de la bonne manière, ça ne sert à rien.
Moi, je citerais juste le grand Giroud qui disait « Faire une tête, c'est dire bonjour ». Voilà. Bonjour. Ça n'a rien à voir, mais c'était une citation importante.
la cerise sur le gâteau.
Alors, donc, par exemple, pour Dorian, oui, je le vois... justement viser très rapidement à la réunification justement pour ces épreuves, parce que physiquement sur les épreuves je vois pas qui pourrait à part peut-être Becca, mais Becca qui a plus cette image de joueur social plus que vraiment de bête sur les épreuves. Pour moi, c'est Dorian, c'est la menace physique numéro 1, et je pense qu'il aurait une cible dès la réunification qui sera grandissante. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je pense qu'il y a Brice aussi qu'il faut qu'on se méfie un petit peu parce qu'il peut puiser dans ses réserves et être très bon. Et il y a, moi, c'est Loïc. Hein. Je pense que Loïc, il va être très fort en individuel.
C'est vrai que donc, là, je suis d'accord. C'est vrai que le Loïc, pour l'instant, c'est qu'on l'a peu vu bon, sur les épreuves. Il a pas cette image-là. Ouais. Mais il est quand même costaud. Il a l'air d'avoir de bonnes capacités physiques. Ouais. C'est vrai que ça peut être un profil qui va se révéler. Or, contraire que Brice, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que Brice, il est quand même très fin, il est très sec au niveau musculation.
Ouais, il commence à avoir très fin, je pense.
Ouais. C'est ça. Et autant au début, c'est vrai qu'on la toute première épreuve avec la course sur les cordes, on voyait Brice qui avait tout défoncé. Et là, vu que c'est un gabarit très sec, il a peu de réserve de graisse et tout, je pense, là, ça, on voit déjà que sa musculature a fondu, que ses joues sont creusées, et que je le vois davantage tirer la langue sur les épreuves en individuel. Enfin, je sais pas ce qu'en pense, Freeze.
Oui, je suis d'accord. Et puis, il a ce côté un petit peu plus discret, peut-être, que Dorian. Donc oui, je pense qu'il peut passer un peu plus inaperçu. Après, de toute façon, une fois la réunification arrivée, je pense que l'important va surtout être dans les mouvements d'ex-équipe, à voir si les Verts arrivent à 6 après les ambassadeurs. ça serait étonnant, mais ça reste une grosse possibilité quand même, parce qu'ils sont assez dominants, et à voir si eux veulent voter toujours en bloc, et du coup là, potentiellement, oui, je pense que Dorian sera clairement leur première cible, parce que c'est un danger pour tout le monde. Après, et c'est ce que personnellement j'espère, si les ex-équipes explosent un petit peu, même si honnêtement je pense qu'il y a peu de chances que ça soit le cas, je pense que Dorian a peut-être une chance de rester un petit peu plus et que ça peut se bouffer assez facilement sur des profils peut-être un peu plus mérites, on va dire, avec des Marie-France et des personnages comme ça. Donc ça va être ça l'intérêt, de voir vraiment comment vont se jouer les premiers votes sur la réunification. Est-ce que ça sera en équipe? Est-ce que ça sera sur les dangers sportifs? Est-ce que ça sera au mérite? Est-ce que ça sera... Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu, même si on sent quand même l'équipe verte arriver très en force. Mais là aussi, les ambassadeurs peuvent tout changer, donc ça sera à suivre.
Marine.
Bah rien à rajouter. non, franchement, ouais, je pense exactement la même chose. Et c'est vrai que j'attends de voir quand même les ambassadeurs parce que ça va être assez déterminant, je pense, pour la suite. Mais j'aime quand même beaucoup Brice et je pense qu'il peut encore nous étonner, épuiser un petit peu. Je vois par exemple qu'il a été très fort sur les épreuves statiques. Quand il y avait le puzzle à monter là, quand il fallait, je sais plus le nom de cette épreuve, ils étaient avec un bâton, il fallait monter 7 pièces de puzzle là. Sans lui, ils auraient jamais pu faire la remontada et tout. Donc je me dis non, il y a moyen quand même qu'il continue de nous étonner un petit peu.
Wilson,
mais ça dépend en fait de quel côté va se retrouver la majorité. Parce que c'est ça, on l'a vu, ça va être une question de fidélité entre guillemets et de gens qui nous sont loyaux ou pas. Et donc, s'il y a un candidat fort physiquement, mais qui est dans l'alliance de l'autre côté, donc en minorité, il va se faire cibler, un peu comme Folien l'année dernière. Ça va être une décision qui va être prise par rapport à ça. Je pense que ça va avant tout être une question de quels sont les alliés les plus fidèles ou pas à un groupe. Et c'est là-dessus que ça va être intéressant, le twist des quatre équipes qui sont devenues deux équipes, du coup. Parce que les relations sont beaucoup plus troubles que dans une saison normale ou habituelle.
Alors, je propose que nous passions tout de suite à la stratégie pré-conseil, puisque les rouges se retrouvent au conseil pour la deuxième fois, et deux personnes se retrouvent en danger au centre de toutes les conversations, c'est Marie-France et Sébastien. Alors, je propose qu'on parle d'abord de Marie-France, qui s'en sort, encore une fois, mais avant tout, grâce à sa relation avec Brice, qui a un petit peu d'influence dans cette équipe. Marie-France, pour moi, c'est vraiment la chance qu'elle a, justement. Je pense qu'elle ne serait pas allée si loin sans Brice. Elle gère, pour l'instant, mais, et ça, je dis, pour moi, c'est vraiment l'élimination parfaite aux ambassadeurs, parce que je ne la sens pas très impliquée comme ça avec les autres. Les gens l'apprécient, mais sans plus. Et pour moi, c'est le parfait vote, un peu comme Frédéric à la guerre des chefs, c'est-à-dire c'est le vote un peu de non-agression. C'est-à-dire que là, c'est...
L'agent libre.
Voilà, c'est le vote parfait si on veut pas trop faire de vagues aux ambassadeurs. Tiens, Frise, vu que tu as pris la parole, toi, qu'est-ce que tu penses de Marie-France sur cet épisode?
Ah, la bouchère du Nord. Oui, je pense qu'elle a joué du mieux qu'elle pouvait. Heureusement, comme tu dis, que Brice l'a quand même aiguillée, parce que je suis pas sûr que sans lui, elle aurait eu conscience qu'elle était... très en danger, et même après que Brice lui en ait parlé, elle a quand même mis un petit taquet en disant « heureusement qu'il y a le jeune qui est un peu con pour me parler de tout ça ». Donc bon, c'est quand même un peu surprenant, parce que son seul allié, visiblement, elle n'en a pas un grand... Elle le méprise un petit peu, mais enfin, c'est autre chose. Après, bon, je pense que pour la suite, comme tu dis, ça peut faire un consensus très simple pour soit les ambassadeurs, soit les premiers tours de réunification. Parce qu'elle n'a pas d'allié fort, même Brice, je pense que s'il faut la lâcher, il la lâchera sans trop d'hésitation. Elle n'a pas un profil super intéressant, je pense, pour s'en sortir seule ou essayer de se creuser un chemin, etc. Donc, très clairement, on la voit difficilement passer les prochaines émissions. Après, pour revenir à ce conseil-là, c'est plutôt bien joué de sa part, parce qu'elle a suivi ce qu'a dit Brice, mais elle s'est plutôt bien positionnée. Elle a suivi le mouvement, mais elle aurait pu soit aller en parler à droite à gauche et risquer de faire un peu de la merde. Elle ne l'a pas fait. Bon, c'est une saison un peu fantomatique pour elle. Elle s'est bien reprise après sa première élimination. Mais honnêtement, c'est pas un personnage qui m'intéresse des masses.
Je comprends. Non, je suis un peu d'accord avec toi aussi. C'est bon, c'est pas un personnage qui me plaît davantage. C'est vrai que, à part son duo avec Brice, le fait qu'elle a, elle a peut-être, comme dit, le mépris un peu facile. Donc voilà, c'est pas une candidate que j'apprécie plus que ça, personnellement. Wilson, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec vous, mais quasiment à 100%. Pour moi, Marie-France, je la détestais au premier épisode, et j'ai appris à l'apprécier avec les épisodes qui sont arrivés. Je pense qu'elle est bien mieux placée que ce qu'on considère, parce que c'est elle qui donne en premier Adrien au bûcher. Ça a fait que elle s'est un peu rapprochée des joueurs de l'alliance majoritaire qui dominaient un peu. Elle est très proche de Brice, chose qu'on n'a pas forcément vu. On l'a vu au tout début quand elle a parlé, il ressemble à mon fils. Et peut-être qu'elle est un peu méprisante en confesse, mais ça, je ne suis pas contre. Ça se trouve, elle a fait un confesse de 30 minutes. On a pris le moment où elle était méprisante. Je n'aime pas trop juger là-dessus. Et moi, pour moi, elle m'est plus sympathique qu'autre chose. Parce qu'au final, même si on la cible, elle passe tout le temps entre les mailles du filet, et mieux que ce qu'on pourrait penser. Et quand elle cible Sébastien comme quelqu'un de filou qui va donner des noms, qui va être stratège, alors qu'on ne l'a pas vu faire ça de tout le long. Et juste après, Sébastien, après peut-être que c'est pas dans l'ordre, hein, mais je veux croire qu'on l'a mis au moins dans l'ordre cette histoire-là, Sébastien jette son grand allié au loup, ce qui le fait confirmer que Marie-France avait raison, ou en tout cas avait dirigé avec les bons arguments. Je pense pas qu'elle ira très 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 loin, mais Adja l'a dit, c'est préférable de garder Marie-France qui va voter avec nous plutôt que quelqu'un qui risque d'aller de l'autre côté. Ça, elle l'a dit entre deux mots en parlant avec Becca, et la manière dont elle a assuré qu'elle voterait pas contre Marie-France à ce tour-ci me fait penser que, et la proximité avec Joaquina me fait penser qu'elle est bien mieux placée que ce qu'on pense.
Elle a juste un profil d'avant-dernier, en fait. C'est-à-dire qu'elle réussit à dire, ah ben, y a pire que moi. Il y a eu Adrien, il y a eu Estelle, là il y a eu Sébastien, mais je suis pas, enfin, elle le fait pas, j'ai pas l'impression qu'elle le fasse. C'est un peu la stratégie du dernier espoir. Alors ça a marché 3 fois de suite, je suis pas sûr que pour autant ça soit une grande candidate, mais c'est efficace. Après on verra là quand ça deviendra, quand il y aura plus de dernier et que ça sera elle la dernière, si elle arrive encore à s'en sortir, mais je pense pas. Je pense que c'est plus un heureux concours de circonstances. Qu'une vraie bête stratégique.
Alors, je vois Griffith dans le chat qui dit que Marie-France, en gros, joue beaucoup à l'émotion, en fait. Elle va ou trahir ou donner des noms, justement, parce que Adrien, par exemple, c'est parce que ça l'avait énervé. Là, Sébastien aussi, c'est comme elle aime pas dire le manque d'honnêteté, la stratégie. Du coup, elle a donné Sébastien sans souci. Alors, Marine, toi, on t'a pas entendu sur le cas Marie-France. Qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense pas grand chose. En fait, j'ai l'impression qu'elle est là parce que ça arrange tout le monde pour le moment, mais que dès qu'on aura plus besoin d'elle, elle partira en fait, quoi. Genre, c'est pour ça que là, aux ambassadeurs, je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'on sait pas qui va désigner qui, etc. Donc, je me prononce pas trop. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, elle est là. Ça permet d'éliminer des gens dont on n'a plus trop besoin et qu'on a envie de virer. Là, Sébastien, c'était un peu l'opportunité. D'ailleurs, ils l'ont dit, il faut l'éliminer maintenant parce que sinon, on pourra plus le faire. J'ai l'impression qu'elle est là parce que pour l'instant ça les arrange et que ouais, à la moindre occasion, même Brice, je pense qu'il sera capable de dire bon bah c'est bon, votre Marie-France elle sert à rien entre guillemets, et voilà.
D'accord. Du coup, bon, avant de passer donc vraiment au cas Sébastien, moi quelque chose qui m'interpelle justement, c'est que pour l'instant ça reste quand même de la stratégie, mais de la stratégie vraiment de fond d'équipe, c'est-à-dire avec les gens qui sont les moins bien placés, c'est-à-dire que personne ne pense à cibler les trois verts. Personne ne pense à essayer d'éliminer genre une menace, genre quelqu'un comme Adja ou comme Joaquina, ça aurait pu être quelque chose d'excellent, mais on a l'impression que les gens sont un peu frileux, qu'ils ont un peu peur justement de faire quelque chose d'un peu trop ambitieux et qu'on préfère un petit peu se cantonner à des gens qui sont plutôt mal placés dans l'équipe. Bah, du coup, je vais revenir vers toi, Marine, toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, en fait, moi, j'ai l'impression que les Verts, pour le moment, ils sont un petit peu intouchables dans le sens où, vu qu'ils sont, bah, ils ont une voix assez majoritaire dès qu'ils disent quelque chose, ils ont quand même un social hyper important. Becca, j'ai l'impression que personne ne votera jamais contre lui dans les circonstances actuelles. Adja, peut-être qu'elle aurait pu y passer, mais c'est vrai qu'ils n'osent pas trop. Et est-ce que c'est plutôt pour se dire, bah, vu que la réunification arrive bientôt, il vaut mieux ne pas trop se les mettre à dos pour le moment? Enfin, c'est un peu bizarre, mais par contre, je pense qu'aux ambassadeurs, on va être surpris parce qu'il y a grand moyen que les Verts soient la cible première et ça serait totalement logique. Donc, franchement, j'attends de voir, mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'osent pas trop et c'est un peu dommage d'ailleurs.
Wilson.
Les Verts, je pense que oui, c'est leur social qui les sauve, tout simplement. Il n'y a pas une seule fois où les autres se sont dit on va se les mettre à dos. Ava voulait jouer avec les Verts avec Sébastien. Brice s'est rapproché des Verts. Voilà. Enfin, en tout cas, dans l'équipe rouge, c'est comme ça que ça se passe. Et ceux qui sont à la bonne place. Et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, où Laurent s'est bien mis avec Alix. On l'a parlé au tout début de l'épisode. Donc, ouais, ils sont en train de bien jouer le jeu. En plus de gagner les épreuves au tout début, ils sont en train de garder leur majorité de manière très efficace.
Freeze ?
Oui, je suis d'accord, c'est assez frileux. Après, on peut aussi le comprendre, hein, parce que quand on voit que les deux seuls joueurs depuis le début de saison qui ont essayé de faire un peu bouger les lignes, c'est Aubin qui a sorti Mathieu et qui s'est fait sortir juste derrière, et Adrien qui a proposé pas mal de noms, qui a essayé de voir un peu ce qu'il était possible de faire et qui s'est fait dégager vraiment très facilement par notamment les ex-verts. Donc c'est logique que des candidats n'osent pas ou attendent un petit peu pour voir ce qu'ils sont possibles de faire. Il ne faut pas oublier qu'ils seront quand même en majorité face aux ex-verts à la réunification. Donc en soi, c'est pas idiot de courber un peu le dos, d'attendre et puis de voir ce qu'on peut faire dans quelques tours. Honnêtement, l'historique de la saison leur donne plutôt raison. Pour moi, ils ont plutôt raison d'attendre le bon moment plutôt que de se précipiter pour essayer d'éliminer des verts qui vont encore se retourner contre eux. Donc à voir, j'espère que ça va un peu péter à la réunification, il y a quand même des chances, hein. On sait que c'est souvent le cas, notamment avec les ambassadeurs, sauf s'il y a deux anciens verts aux ambas, mais là ça serait quand même terrible, ça serait vraiment une décision vraiment très mauvaise pour tous les autres, mais ils en sont capables, hein. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc je comprends moi cette frilosité-là, j'espère juste que ça ne durera pas toute la saison et qu'on ne finira pas avec six verts dans les derniers candidats, mais honnêtement il y a quand même peu de chances. Donc, bon, c'est vrai que ce n'est pas les épisodes les plus intéressants, ni les strates les plus intéressantes pour l'instant, mais c'est logique aussi. C'est logique, et puis j'espère que ça permettra une réunification encore plus intéressante. Quoi.
Du coup, on le sait, Sébastien a été éliminé. Sébastien, donc, qui parlait vraiment de mythe d'anti-stratégie, qui avait l'air d'avoir ça en horreur, et qui propose quand même une stratégie, c'est de virer son duo, Fabrice, pour essayer de se sauver sur les prochaines épreuves. Et c'est clairement la décision, enfin, l'idée qui le fait passer pour un traître et il se fait justement éliminer un peu à cause de ça. Alors, c'était assez drôle de le voir jouer justement parce que c'est un personnage comme ça qui avait l'air d'être complètement rétif à tout ce qui était stratégie. Et est-ce que vous pensez, vous, que sans ça, il aurait peut-être même pu rester et essayer de trop rien faire, de suivre un groupe pour peut-être essayer d'éliminer une Marie-France? Est-ce qu'il a bien fait d'avoir tenté le coup? Qu'est-ce que vous en pensez, Wilson?
Ben, Seb, il a été pris de court, je pense. Il s'est dit que donner l'exemple du mérite, ou en tout cas la valeur mérite, était la meilleure chose à faire, ce qui, je pense, dans beaucoup de Koh-Lanta, est la bonne chose à faire. Et du coup, il a mal lu peut-être les interactions entre les autres. Et il ne s'est pas rendu compte que les gens le soupçonnaient d'être filou, d'être stratège, etc. Et il a donné du grain à moudre, en fait, pour se faire éliminer derrière. Et c'est ça qui est arrivé. Il ne pouvait plus faire grand-chose. Il a essayé tout ce qu'il pouvait. Et on aurait dit un poulet sans tête qui sait juste de se sauver. Et c'était trop tard, je pense, à la fin. En tout cas, le matin, avec Joaquina, c'était très clair. Et voilà, il ne pouvait rien faire d'autre.
Marie ?
En fait, il a clairement été... con de parler de Fabrice en lui assurant qu'il voterait jamais contre lui, mais au fond de lui, en sachant qu'il voulait du coup peut-être le virer, en fait, il aurait juste dû fermer sa bouche auprès de Fabrice et je pense que ça serait passé plus tranquille parce que là, en fait, c'est le coup de dire bah, tu veux éliminer ton binôme, tu nous le dis à tous, mais toi, par contre, tu dis non, je vote Marie-France. Donc, en fait, c'est bien, c'est cool, c'est genre tu te mouilles pas, mais en même temps, vas-y, faites-le pour moi, quoi. Je pense que les gens, ils n'ont pas apprécié du tout ce coup-là. Et c'est ça qui fait qu'il part, en fait, tout simplement. Parce que si jamais il n'avait pas lancé ça et qu'il aurait suivi tout le monde à voter Marie-France, je pense que c'est Marie-France qui partait parce que Brice n'aurait pas pu, à lui tout seul, je pense, retourner la tête non plus de tout le monde. Donc, je pense qu'il a juste mal commencé son truc, en fait. Et après, du coup, ouais, il a paniqué. Il a dû se dire, oh là là, comment je rattrape ça? Alors, du coup, c'était trop tard parce que tout le monde a eu vent de ce qu'il voulait faire. Et ça a été du pain béni bah, pour Brice, pour Marie-France et pour leur binôme, quoi.
Freeze?
Ouais, je suis d'accord. J'avais dit, je crois, il y a quelques épisodes que Sébastien avait un profil de jeu un peu limité. On l'a vu sur cet épisode-là. Je pense qu'il s'attendait pas forcément à être ciblé et que quand il l'a su, il a complètement, comme dit Marine, complètement paniqué. Il avait ni plan ni plan A ni plan B. Donc voilà, il a un peu balancé le premier qui lui est venu par la tête. peut-être dans l'espoir que c'est celui qui marche, mais c'était, je pense, encore pire de proposer ce nom-là. Je pense qu'il aurait eu tout à gagner à insister sur Marie-France et puis à essayer de convaincre peut-être Brice, etc. Mais pour ça, encore faut-il avoir une lecture de jeu et connaître un peu les liens de tout le monde, etc. Et je pense que c'était clairement pas son cas. Il venait pour pêcher des poissons et penser à ses saucisses, et je pense qu'il ne fallait pas en attendre grand-chose d'autre.
Non, c'est vrai qu'il... Alors, est-ce qu'il gérait son image? Bon, tout le monde gère un petit peu, hein, ça c'est... je pense qu'au bout d'un moment, ça on le sait. Mais est-ce qu'il a été, il était vraiment aussi candide que ça sur, sur les stratégies, sur... Voilà, parce qu'il avait vraiment...
Bah, la preuve que oui. Hein. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est la première fois qu'il est en danger, il ne met rien en place, et non, enfin, le seul truc qu'il met en place l'enterre encore plus. Donc, je pense que n'importe qui, avec un tout petit peu plus de sens stratégique, aurait pu essayer. Lui, ce qu'il a essayé, l'a condamné encore plus. Donc, je pense qu'effectivement, c'était le bon choix de le cibler. Parce que, enfin, peut-être pas, parce que je pense qu'à la réunification, il n'aurait pas fait grand-chose de plus. Mais c'est logique, en tout cas. C'est logique de partir sur lui, effectivement. Bon, c'est une valeur sûre qui ne va pas aller à contre-courant de cette élimination-là. Donc,
C'est surtout que Galinette n'avait pas à trahir Cafouniette comme ça. En fait, ils ont leur super truc et tout, ils ont une dynamique qui montre qu'ils sont grave potes. Même au conseil, il en fait encore des caisses à dire « oui, c'est mon acolyte, nanani, nanana ». Et ensuite, derrière, il lui avait mis à l'envers depuis 24 heures. Enfin, en fait, il s'est vraiment tiré une balle dans le pied en énonçant Fabrice à éliminer. Vraiment, je pense qu'il aurait pu choisir n'importe qui sur le camp. Ça ne se serait pas forcément retourné contre lui, mais il a vraiment choisi la mauvaise personne, en fait.
Griffith sur le chat dit pour moi fallait le garder, c'était une bonne élimination pour la réunification, qui serait un bon bouclier pour les Verts, parce que les Verts ont besoin de gens moins à l'aise comme ça, enfin de stratégiquement pour faire oublier leurs forces. Et
il y en a d'autres.
Ouais,
hein.
Ouais, voilà.
Il reste Marie-France, il reste des profils comme ça. Honnêtement, ils ont l'embarras du choix, donc ça change pas grand chose, je trouve.
Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose pour l'instant sur cet épisode?
Ouais, juste, je trouve que c'était un bon épisode avant la réunification. C'est assez rare. En général, c'est vraiment l'épisode le plus ennuyeux de la saison. Mais là, je pense que c'était plutôt celui de la semaine dernière. Mais là, il y a eu et des épreuves plutôt sympas, visuellement parlant, et puis un peu de stratégie, même si c'est des stratégies bonnes ou mauvaises, mais en tout cas des réflexions sur la continuité, sur justement le rôle de Sébastien, le rôle de Marie-France, etc. Il y a quand même eu des dynamiques très intéressantes, alors qu'en général, c'est quand même l'élimination la plus par défaut, puisque tout le monde, personne ne prend de risque avant la réunification. Je pense qu'ils le sentent, même s'ils n'ont pas forcément l'info. Et pour le coup, on n'a pas eu ce creux-là dans cet épisode-là. C'était plutôt bien amené, plutôt bien monté. Donc c'était plutôt satisfaisant à regarder, donc ça donne très envie de voir la réunification la semaine prochaine.
Et je voulais rajouter, en plus ça nous donne une bonne idée déjà de dynamique claire et nette et précise, parce que jusqu'ici j'avais l'impression qu'on devait un peu plus les deviner que ce qu'on les a vus bien vus cette fois-ci. J'ai l'impression, plus que dans les épisodes précédents, et ça change d'une saison, la saison dernière, qui était beaucoup moins axé sur les alliances, sur la capacité, parce qu'on avait deux gros groupes qui s'éliminaient, un gros groupe qui éliminait l'autre jusqu'à la fin, et puis point. Alors qu'ici, on a l'impression qu'il y aura plusieurs dynamiques différentes à la réunification. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça amène du bon pour la suite.
Du coup, c'est un peu le point fort qu'ils ont eu sur le fait d'avoir fait les quatre régions. Bon, moi, l'idée de base, j'étais pas emballée du tout, etc. Mais en fait, du coup, ça crée plusieurs dynamiques et ça perd un peu le téléspectateur sur les stratégies, sur les liens, sur les alliances. Et c'est vrai que du coup, on est perdu. Et là, ça va permettre la réunification de voir si c'est... En fait, on ne peut pas savoir parce qu'il y aura les premières alliances, il y aura celles des deux équipes. Et c'est vrai que c'est un peu la surprise qui va arriver. Donc, c'est plutôt cool, en fait. Je suis plutôt agréablement surprise, du coup.
Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est une saison qui reste très... Enfin, pour la pratique pré-réunification qui peut être parfois un peu plombante, un peu pesante. Là, c'est à part l'épisode de la semaine dernière, elle a été très très agréable à suivre d'un bout à l'autre.
Ça pose question, en fait. C'est vrai que ça nous interroge. On réfléchit pas mal à la vision du jeu. On essaye de se demander comment ça va avancer. Et c'est vrai que c'est plutôt bien parce que c'était pas. Enfin, franchement, je le voyais pas du tout comme ça sur cette saison. Donc, franchement, c'est top.
Bah, ça confirme aussi que peu importe le twist de la saison, quand c'est uniquement avec des nouveaux, on a quand même un niveau qui est bien plus homogène et bien plus intéressant à suivre que quand on nous refoue des Claude et des Théorois qu'on a déjà vu 15 fois avec des inconnus.
Bah, c'est surtout que si tu n'en mets que 5,
ah ouais,
parmi tant d'autres, évidemment.
Mais entre la guerre des chefs et là, les quatre terres, on est pour l'instant, bon, même si la guerre des chefs est très au-dessus, mais parce qu'on connaît la fin, etc., on est sur deux très bonnes saisons avec des castings intéressants, des réflexions intéressantes, du jeu, des surprises, des colliers, des machins. Ça fait quand même beaucoup de bien après la grosse purge qu'on a eue, qu'on s'est tapé il n'y a pas si longtemps.
Et cette fois-ci, on n'a pas, enfin, à part Carole, on n'a pas vraiment de joueurs qui sont prévenus, qui vont sortir. On a déjà deux colliers bien utilisés, enfin, un moyennement bien utilisé et l'autre plutôt bien utilisé, même si ça lui a coûté sa place après. Il s'est fait un peu avoir par la refonte des équipes. Et on a, on a des surprises, pas forcément que pour le téléspectateur, mais on a des surprises à beaucoup de conseils, alors qu'on est à la moitié, même pas à la moitié de la saison.
Il y a pas mal de blindside, que ce soit sur les conseils, mais même en termes sur le camp, etc. Les gens, ils arrivent un peu à se retourner, à changer d'allié, etc. Donc non, on est plutôt bien servi, c'est clair.
Et encore, Carole serait pas sortie si elle s'était vraiment mise à poil. Donc,
Mais elle a pas mis sa menace d'exécution.
Entre lui qui monte son cul et Carole qui veut se mettre à poil.
Alors du coup, maintenant, Freeze, tu sais ce qui arrive ?
Non.
Vas-tu le sûr ? Tu n'as pas de petits génériques.
Allez, allez, fais-toi plaisir.
Kuzuma, rien que pour toi.
Eh oui, je sais ce que c'est.
C'est l'heure du...
Qui a dit ?
À toi de jouer, du coup.
J'en profite pour remercier et féliciter encore Wilson, qui est l'auteur de ce magnifique jingle.
J'aurais rien pu faire.
C'est donc l'heure du Kikadi, le jeu le plus simple et le plus con de l'histoire. Il faut trouver Kikadi. Voilà, c'est comme son nom l'indique. Donc on y va, c'est parti pour trois phrases à nouveau sur l'épisode de vendredi soir. Donc la première phrase est une remarque très très pertinente. Qu'est-ce que c'est bon une tomate ? Ça a vraiment été dit, mais qui a dit ça ? Je répète, qu'est-ce
Fabrice
que c'est bon une tomate ? Oui,
Fabrice.
Ouais, oui, c'est Fabrice. C'est Fabrice qui mange une tomate sur le bateau et qui dit qu'est-ce que c'est bon une tomate. Et c'est vrai, on le dit pas assez, qu'est-ce que c'est bon une tomate. Bravo Marine, un point pour toi. Seconde de phrase. J'avais l'impression que j'allais très haut.
Adja ?
Lola ?
Ouf. Okay.
Oui,
oh
oui, c'était Lola. C'était Lola au débriefing de l'épreuve qui explique qu'elle s'est prise pour Michael Jordan, même si c'était pas vraiment ça. Mais c'était bien Lola. Deux points pour Marine, incroyable. Dernière proposition. Il faudrait que Fabrice sorte.
Sébastien.
Bah, Seb.
Oui, Sébastien. Et oui, on l'avait dit. On en a parlé tout à l'heure. C'est lui qui a sorti cette horrible trahison qui lui a certainement coûté sa place. Bravo, bravo. Donc ça fait deux points pour Marine, un point pour Wilson, qui, je crois, monte un petit peu au classement, même s'il n'était pas très haut, mais ça te fait deux points, oui. Ce qui est toujours mieux que zéro, comme pourrait dire Fabrice.
J'ai une question. Comment tu vas faire à la fin, en finale, quand ils seront plus que cinq ? Ce sera...
Eh bien, il y aura une question en or qui vaudra 3 points. Et arrête de m'emmerder.
Il faut mettre les super punchlines de Denis aussi. Dedans.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ou on fera des citations de la saison dernière, histoire de toute la merde.
Eh bien, écoutez, je te le remets comme d'hab.
Je t'en supplie.
Ah.
C'est l'heure du...
Qui a dit ? Merci.
Mais de rien, écoute, toujours un plaisir d'être un peu le maître de cérémonie, de te mettre dans les meilleures conditions comme ça pour exprimer tout ton art.
C'est parfait.
Cet épisode touche à sa fin, donc je vais remercier mes intervenants, Freeze et Wilson, d'avoir apporté leurs très bonnes analyses encore une fois.
Mais pas de quoi, merci. Merci à toi, merci à tout le monde.
Merci encore une fois de nous animer.
Et
dans tous les sens du terme.
Et puis merci à Marine quoi qui est une super intervenante vraiment et qui apporte des choses qui apporte vraiment une spontanéité qu'on apprécie beaucoup. C'était très très agréable encore une fois, donc merci à toi.
Merci à vous, c'est toujours vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous adore, vous êtes génial et enfin génial podcast, bref géniaux. Passe pas pour la blonde. Et je peux me permettre, juste en tant qu'ancienne candidate, je suis obligée, mais je voulais envoyer encore plein de grosses pensées pour Becca. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de voir, par exemple, le confort qu'il a gagné sur le bateau, le voir danser, sourire, etc. Ça fait peut-être pleurer, mais ça nous fait du bien. Et voilà, je voulais juste encore et encore envoyer tout plein de pensées, parce qu'à chaque fois, on ne peut pas s'en empêcher, et c'était un chouette type, donc voilà.
Mais non, tu fais bien. C'est vrai que là, nous, on y avait rendu hommage. Et voilà, là, encore une fois, je dirais qu'à chaque fois qu'on le voit, on se dit que c'est quand même un très bel hommage qui est rendu, que cette saison soit diffusée, parce clairement. Qu'il est solaire, parce qu'il fait beaucoup de bien cette saison. C'est un des personnages marquants de cette saison, quoi, et qu'on est très, très heureux de le voir vivant. Et
puis, voilà, faut être honnête, il est hyper naturel. Genre, quand on le voit, il savoure en fait tout ce qu'il vit dès qu'il a eu un confort, mais il le savoure plus que d'autres. Enfin, vraiment, c'est un bonheur de le voir, honnêtement. Donc, voilà.
Eh ben, merci à tous, en tout cas, encore pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 14h, pour l'enregistrement, pour l'épisode de la réunification, qui est toujours l'épisode. Alors, c'est toujours l'épisode où tout part dans tous les sens, et je pense qu'on va beaucoup, 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 beaucoup s'amuser. C'était Damien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!